Radio Dekeluka, le magazine parlementaire.
Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur les ondes de Radio Dekeluka. Le magazine parlementaire franchit le cap cette semaine de sa 34e production pour l'année 2019. Cette nouvelle aventure parlementaire est consacrée à la procédure d'élaboration ou du dépôt de l'examen de la loi des finances pour l'exercice de l'année prochaine. Qu'est due la loi à propos du budget que les élus de la nation doivent voter pour doter le gouvernement des moyens de son fonctionnement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Nous allons nous intéresser à la première circonscription du 6e arrondissement de Bangui. Dans cette localité, le député Augustin Tosa Benza mobilise depuis une semaine des jeunes pour les travaux d'amélioration de la voirie. La loi sur la Banque africaine d'import-export Afreximbank, déjà ratifiée par les députés, reviendra dans cette émission avec le député Sonny Koulbayon de la Commission Affaires étrangères. Nous sommes deux au micro pour cette émission.
Joët Bagali,
Igor Djeskin, Senapaye à la partie technique, Guy Rémi Yaminindi. Après cette courte pause, c'est le magazine parlementaire de la région de Keluka. Une fois de plus, bonjour Jean-Eudes, bonjour à tous.
Bonjour Godjaskin Senapay, bonjour à tous nos auditeurs.
Nous l'avions déjà annoncé au départ, chaque année, les députés doivent voter le budget pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens de son fonctionnement.
Oui, la question qu'on se pose est de savoir que dit la loi à propos du délai du dépôt de cette loi des finances à l'Assemblée nationale. Quelles sont les procédures d'examen? Retrouvons Augustin Agou, membre de la commission finances.
C'est la constitution de notre pays, la République centrafricaine. À son article 82, deuxième alinéa, dit ceci: le 15 septembre de cette année, le gouvernement a l'obligation de déposer au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'année 2020. Donc, c'est l'article 82, alinéa 3 de notre Constitution qui fait l'obligation, qui demande au gouvernement de déposer au plus tard le 15 septembre de chaque année le budget d'exercice suivant.
Qui doit déclarer la recevabilité de ce projet du budget et quels sont les itinéraires à suivre pour le début de l'examen?
Monsieur Senapay, c'est le gouvernement qui prépare le budget et ensuite le gouvernement dépose officiellement le budget au bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, le bureau de l'Assemblée nationale se réunit, examine et déclare la recevabilité de ce budget. Donc, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Quand je parle du bureau de l'Assemblée nationale, c'est le président, c'est le vice-président et tous les membres du bureau. Ils doivent se réunir et ils déclarent la recevabilité de ce budget-là. Et ensuite, comme ça concerne le budget, immédiatement, ce budget doit être renvoyé dans chaque différente commission. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons, si je me trompe, nous avons 8 commissions. Et donc, on voit maintenant les exemplaires du budget dans chaque commission, et parce qu'il y a ce qu'on appelle le budget sectoriel, c'est-à-dire il y a les commissions qui doivent contrôler le budget de différents départements. Et donc, nous, par exemple, au niveau de la commission finance, on doit examiner le budget du ministère des Finances, le ministère du Plan, et ainsi de suite. Et donc, maintenant, chaque commission, maintenant, doit se réunir pour examiner maintenant le budget. Et donc, le budget arrive au bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale se réunit et déclare la recevabilité, et ensuite transmet dans les 8 commissions.
Dans quelles conditions l'Assemblée nationale peut rejeter un projet du budget?
Je vous remercie. Vous savez, le budget, il y a des conditions. Lorsque le budget est arrivé au niveau de chaque commission commence à examiner et ensuite, s'il y a des amendements, il faut faire des amendements. Et donc, peut-être au niveau de la plénière et également, chaque commission doit faire des rapports. Vous voyez? Et ces rapports-là doivent être acheminés vers la commission mère qu'on appelle la commission finance au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons 8 commissions. Donc, je précise bien, nous avons 8 commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Et chaque commission examine le budget sectoriel et ensuite ils doivent dresser un rapport et ce rapport-là, ils doivent envoyer dans les 7 autres commissions, on voit les rapports au niveau de la commission finance. Il se peut que les 7 commissions peuvent décider le rejet. Et donc, quand ça arrive, par exemple, les 7 commissions décident que nous, on ne veut pas de ce budget, on ne veut pas voter. Qu'est-ce qui va se passer? Ils viennent maintenant au niveau de la commission finance pour défendre, nous dire le pourquoi ils ont décidé de rejeter le budget. Et si les explications qu'ils donnent, ça rassure, ça convainc, et qu'est-ce qu'on fait? Nous également, au niveau de la commission finance, on doit maintenant faire un rapport et demander à la plénière de ne pas voter ce budget. Voilà, c'est comme ça qu'on peut rejeter un budget au niveau de l'Assemblée nationale.
Les députés peuvent revoir en hausse ou en baisse un projet de loi des finances. Dans quelles circonstances peuvent-ils voter ou rejeter un projet du budget? Augustin Agou.
Vous savez, le budget, il y a des règles qu'il faut respecter. Et donc, toute proposition d'amendement, projet de loi des finances, doit d'abord être motivée et cette proposition d'amendement doit être accompagnée des développements, c'est-à-dire des moyens qui justifient ce que vous voulez faire. Vous voulez augmenter, pourquoi? Vous savez, en matière de budget, il faut être prudent. Par exemple, au niveau des recettes, recettes. Si l'État a prévu 10 000 francs CFA de recettes pour l'année 2020 et que vous, au niveau de l'Assemblée nationale, pour des raisons personnelles, vous décidez, vous dites que non, on veut augmenter les charges et que vous augmentez les charges à hauteur de 15 000 francs CFA, ce n'est pas. Comment voulez-vous que l'État puisse trouver les 5 000 francs ou pour combler ce manquement-là? Donc, ce n'est pas normal. Et donc, premièrement, si vous voulez augmenter les charges, vous devez d'abord chercher à trouver les recettes. Vous comprenez? Donc, il y a des règles, comme je vous l'ai dit. Donc, toute proposition d'amendement de projet de loi de finances doit être motivée et doit être accompagnée. Ça veut dire que vous devez d'abord trouver des recettes. Dire au gouvernement, bon, voilà, nous avons trouvé des recettes ici qui fait, par exemple, 5 000 francs. Par conséquent, nous, on augmente tel type de charges à hauteur de 5 000 francs pour équilibrer le budget. Et donc, vous ne pouvez pas augmenter. C'est possible que vous trouvez les recettes quelque part. Vous dites au gouvernement que, voilà, on a trouver des recettes, c'est bien. Mais si vous voulez toucher aux charges, il faut d'abord équilibrer les choses. Et aussi, il faut préciser, ce n'est pas, sont automatiquement irrécevables les amendements déposés par un député lorsqu'ils ont effet pour qu'ils vont entraîner une diminution des ressources, vous comprenez, non compensées. Donc, si un député ou une commission fait des propositions pour diminuer les ressources du pays et que cette diminution n'est pas compensée par des économies ou une augmentation des charges à l'État, ça ne sera pas, voilà, à peu près, c'est comme ça que ça se passe.
Et si la loi des finances n'est pas voté par la majorité des députés.
Mais ça, ce n'est pas normal. Il faut que la loi, nous sommes 140 députés. Donc, pour que la loi passe, il faut qu'il y a 71 ou 72 députés votent la loi. Pour que on déclare la loi votée, il faut que ce n'est pas, il faut qu'il y ait 70 plus 1. Acceptent, disent oui, nous acceptons ce projet de loi. Donc, si 70 plus 1 ont voté, ça veut dire que 69 ont voté contre. Ça veut dire que la loi est votée. Mais si, par aventure, 71 ont voté non. Ça veut dire que 69 ont voté oui et la loi est rejetée. C'est exactement ça. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si 69 députés ont voté oui, ça veut dire que la loi est automatiquement rejetée par l'Assemblée nationale.
Combien de temps elle doit rentrer en vigueur si elle est adoptée?
La loi, nous, normalement, si les choses se passent correctement selon le terme de l'article 82 de la Constitution que je vous ai cité, et si l'État respectait ces conditions, déposait le budget au plus tard le 15 septembre à l'Assemblée nationale, nous, automatiquement, dès notre rentrée parlementaire, deuxième session ordinaire en octobre, nous commençons l'examen de ce budget au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez que l'examen du budget prend beaucoup de temps. J'avais oublié de clarifier. Lorsque nous recevons le budget au niveau de chaque commission, il y a des étapes que nous devons respecter. On doit d'abord commencer à examiner les textes de loi, ainsi de suite, et exposer des motifs. On doit lire l'exposé des motifs, comprendre qu'est-ce que le gouvernement a dit pour justifier s'il y a le déficit, s'il y a augmentation, ainsi de suite. Donc, on lit d'abord l'exposé des motifs, et ensuite, maintenant, on passe à l'établissement des chronogrammes de travail. On fait un chronogramme de travail. On va commencer à auditionner tel département ministériel, telle agence, telle DG, pour poser des questions, pour des clarifications, pour comprendre comment le budget d'État a été géré par rapport à ce que nous a donné, ainsi de suite. Et après, maintenant, on passe au rapport. Comme je vous ai dit, chaque commission, puisqu'il y en a 8, les 7 commissions doivent faire leur rapport et ils doivent envoyer leur rapport au niveau de la commission mère, qui est la commission finance, pour faire ce qu'on appelle la synthèse. Et la commission mère finance sort un rapport général concernant le budget qui passe à l'examen au plénière. Donc, si la commission, par exemple, loi amène son budget au niveau de la commission finance, le président de cette commission ou le rapporteur viennent pour défendre leur rapport au niveau de la commission finance. Et la commission finance peut décider que, bon, leur proposition d'amendement est acceptée ou leur proposition d'amendement est rejetée. Et si c'est accepté, on doit indiquer dans le rapport global que c'est accepté. Si c'est rejeté, on doit expliquer dans le rapport final que c'est rejeté. On doit donner le pourquoi on a décidé de rejeter la proposition d'amendement de telle commission. Et la commission finance fait maintenant un rapport général. Et ce rapport général englobe le rapport de 7 autres commissions et on soumet maintenant à l'examen des députés au plénière.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Faisons maintenant un tour dans certaines circonscriptions électorales du pays.
Tout à fait, on se limite cette semaine à la première circonscription du 6e arrondissement de Bangui.
Vous l'avez dit, Igor, le député Augustin Tosa Benza a mis en place une initiative d'amélioration de la voirie afin d'offrir un cadre de vie favorable à ses électeurs.
Outre cette activité, l'élu de la nation est en train d'encadrer plus de 40 candidats qui composeront les épreuves écrites pour l'intégration des corps de la gendarmerie et de la police. Augustin Tosa Benza.
Vous savez, le 6e arrondissement, c'est une zone qui est très 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 difficile. Nous avons, c'est une zone d'inondation dans la plupart des espaces qui se trouvent dans le 6e arrondissement. Et les voiries qui ont été faites, qui sont des voiries de fortune, qui ont été faites, n'ont jamais été aménagées. Et ça pose un problème de circulation des habitants lorsqu'il pleut atrocement. Donc, normalement, ce sont des compétences qui relèvent de l'État. Comme vous le voyez, l'aménagement du 6e arrondissement représente un coût sans précédent. Rien que déjà les études, telles que je l'ai vues au niveau du ministère de la Coopération, dans un dossier, on a évalué les études à faire sur le 6e et le 2e arrondissement de l'ordre de 6 milliards et quelques de francs CFA. Mais si on prend l'aménagement proprement dit, on est dans des dizaines de milliards de francs. Donc, vu la situation de notre pays, où l'État n'a pas encore recouvré l'intégralité du territoire et les recettes sont quand même très, très, très limitées, on voit mal l'État aujourd'hui engager des sommes aussi importante pour l'aménagement du 6e. Donc cet aménagement viendra, mais viendra plus tard. Personne ne sait à quel moment ça viendra. Et si on veut attendre que l'État ait les moyens d'abord pour pouvoir apporter des débuts de solutions à nous, à mes concitoyens du 6e arrondissement, ça risque d'être très difficile. Les gens ont le sentiment de délaissement. Donc qu'est-ce que fait l'honorable ? L'honorable apporte des solutions palliatives dans l'attente d'un grand aménagement. C'est ça qui m'a conduit ces derniers jours à engager des travaux d'amélioration aussi modiques que ce soit-elle, ces améliorations, pour permettre à la population d'avoir le sentiment d'être citoyen et d'appartenir à la République, et non d'avoir le sentiment de délaissement.
Un message aux autorités, un message à la population qui est aussi victime de cette situation.
Je pense que la population du 6e arrondissement est une population très, très patiente. Beaucoup de choses n'ont pas été faites dans le 6e, qui auraient dû être faites depuis des années, n'ont pas été faites. Maintenant, nous avons pris conscience de la situation, et moi, en tant que député, j'ai pris conscience de la situation dès l'instant que j'ai été élu, de la charge et des difficultés que connaissent la population du 6e. Donc je demande à la population du 6e de garder leur patience, mais de nous mobiliser tous ensemble pour nous battre, pour avoir un cadre qui soit meilleur, afin de mieux vivre dans le 6e arrondissement. Aux autorités nationales, moi je suis à la commission des finances de l'Assemblée nationale, je comprends la situation financière de l'État. Je sais que l'État aujourd'hui ne peut pas tout faire. Comme il y a un adage qui dit, Paris ne s'est pas fait construire en une semaine ou en un seul jour, on ne va pas demander que son Bangui aujourd'hui soit construit en un seul jour. Je connais les difficultés, mais par contre ce que je demande aux autorités, en attendant d'avoir les ces gros moyens, il y a des solutions alternatives, des mesurettes qui permettent d'atténuer cette souffrance de la population. Je vais citer un exemple. Le 6e arrondissement est un bassin d'eau. Il y a plusieurs bassins de rétention d'eau. La pression immobilière a fait que les gens ont construit dans ces bassins, dans ces zones de rétention d'eau, ce qui bouleverse l'équilibre hydrologique de la région. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est que avec le concours de Madame la ministre de l'Urbanisme, avec le concours de la mairie, interdit déjà les constructions sur les zones où des zones d'inondation ou de rétention naturelle d'eau. 1. 2. Les maisons qui sont construites dans des zones de rétention d'eau, il faut que nous essayons de les localiser pour essayer d'indemniser les habitants qui se sont installés là, en leur proposant un relogement et on laisse le terrain libre pour permettre de retenir l'eau qui vient sur le 6e arrondissement.
La loi sur la Banque panafricaine d'investissement Afreximbank a été déjà ratifiée par les députés. Suivons ce que les centrafricains ont dit à propos de cette loi.
Oui, je dirais que c'est une bonne chose. À condition que les Centrafricains s'y mettent.
Moi également, j'apprécie beaucoup. En tout cas, c'est quelque chose qui est bien. Quand on parle d'investissement, c'est dans tous les domaines. On peut parler de domaine de santé, domaine d'agriculture. On peut aider les gens en association. Ça peut aussi aider les commerçants, ceux qui font des commerces. Donc, c'est une bonne chose.
C'est très bon pour la République centrafricaine parce qu'on est tous des centrafricains. On a besoin de ça aussi pour que les enfants de notre pays ont plus de l'argent pour faire avec des choses, ainsi de suite.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Donnons la parole cette fois-ci, Igor, au député Sonny Koulbayon, vice-président de la Commission Affaires étrangères, pour des éclairages sur cette loi.
C'est une banque d'investissement, d'import-export, qui fait la promotion des investissements entre inter-États africains, dans un premier temps. Donc, cette ratification permet à la République centrafricaine de devenir membre et actionnaire. Voilà, donc ça fait l'objet de la procédure d'autorisation de ratification. C'est ça qui a été fait aujourd'hui.
Mais après cette ratification, quel est le reste de procédure?
D'abord, tout simplement, nous allons transmettre la direction des lois, s'occupera des formalités administratives. Ça sera soumis à l'approbation des secrétaires parlementaires et pour que le nécessaire soit fait, diligenté, afin que le chef d'État puisse signer. Cette cette banque a une particularité de prêter à un taux concessionnel dans un premier temps. Et bien avant cela, il y a déjà 3 projets sur les 5 présentés. Il y a 3 projets portés par la République centrafricaine qui ont déjà été retenus par cette banque pour être financés, notamment dans le domaine agricole et bien d'autres. Vous comprenez que notre pays est un pays qui doit mécaniser par exemple son agriculture, qui doit faire accompagner des opérateurs économiques privés. Et cette banque laisse la latitude même aux privés de prendre des actions. Et donc, tous les pays de la CEMAC ont déjà ratifié, sauf la RCA. Et il y a 47 pays sur le continent africain aussi qui a déjà ratifié et qui fait partie d'Afreximbank. Donc, la RCA aussi doit s'aligner par rapport aux autres et jouir de cette facilité parce que on sait très bien comment ça se passe avec les banques chez nous pour l'instant. Je pense dans un premier temps que quand une banque arrive, il y a d'abord soit un bureau de liaison ou une succursale qui s'installe en République centrafricaine. On peut même, sans que la banque soit ici, la RCA est déjà éligible pour pouvoir jouir des financements de cette banque. Et les actions qui seront portées iront jusque dans l'arrière-pays. Vous comprendrez qu'on ne va pas mettre 50 000 agences un peu partout sur l'étendue du territoire, mais il y aura des points relais, il y aura la facilité pour que les agriculteurs, les autres centrafricains qui sont dans l'arrière-pays puissent aussi en profiter.
Vous suivez toujours le magazine parlementaire sur les 100.9 FM depuis Boire dans la Nanamambéré. Avant de terminer cette émission, nous allons découvrir à nouveau le terme mention de préalable à l'Assemblée nationale avec le président Moussa Laurent Gonbaba.
Ça te brûle. Lorsqu'il y a des débats au niveau de l'Assemblée nationale, nous parlons de débats en plénière surtout. Lorsque la séance est ouverte, une possibilité est donnée aux députés de faire suspendre, de faire arrêter le débat pour que l'Assemblée se prononce sur des questions préalables, sur des questions préliminaires, sur des points précis. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de motions. Ce sont les motions qui sont accordées aux députés. Ces motions sont constituées de quelles motions ? Il s'agit des préalables dans un premier temps. Il s'agit de motions d'ordre. Il s'agit de motions de clarification. Il s'agit de motions de procédure. Il s'agit de motions d'information. Lorsque, au cours de débat, un député estime qu'il y a un point précis qui devait être réglé avant l'examen, n'est-ce pas, de points inscrits à l'ordre du jour, il peut demander donc le préalable. Et donc, le préalable fait partie des différentes motions qui sont accordées à l'Assemblée nationale aux députés lors des débats parlementaires.
Et un préalable peut aboutir à quoi ?
Un préalable peut aboutir, n'est-ce pas, à une solution qui est souhaitée. Par exemple, le préalable, lorsque un député demande à ce que, s'il s'agit, par exemple, de régler d'abord un sujet donné avant de passer au point inscrit à l'ordre du jour, le président des sciences est obligé de suspendre le débat sur le point inscrit à l'ordre du jour et de régler d'abord le problème de préalable. Si le problème de préalable est réglé et si la solution a un impact sur l'examen de l'ordre du jour inscrit, et donc parfois l'ordre du jour peut être renvoyé suivant la réponse au préalable qui a été soulevée.
Cette rubrique met un terme à ce magazine parlementaire de la semaine. Nous disons merci à tous ceux qui étaient à l'écoute. C'était une présentation de Igor Djeske, ce n'a pas eu.
Joël Bagali.
À la gestion numérique, c'est une affaire de Guirimi Yamenidi. Nous remercions tout le monde, tout le staff de la communication de l'Assemblée nationale. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Radio Ndekiluka, le magazine parlementaire.
Ibarawa be Afrika kwe zoni gango na la soki ma dafron Ndekiluka kwa singa ti awa padalesu ti ngasu kapani ake balota na ndoni o chosi sa latin ti kusak sa ndo balata na ndoni gombaya e ke tentelen na ndo ti tongana si ake lekere boku ti maman ginza tongana si ake zian na bagi ndoko ta badalezo tongana si awa badalezo ake tonda tenen a sara kusa na ndoni ti tena munginza na leta ti na sara kusa la ake aten so si ale ke inga na ti kwa singa ti laso e ke tentelenga na ndo ti ndo sorongozo ti baba ka omene ti bongi ti ko joni si ou abadrezo Augustin tous à Benza bombia masekasu mambo kona ditena sara mena kuza ditena.